Radio sans nous.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Dans quelques minutes, votre journal. J'espère que vous aimerez ce nouveau journal.
Plus d'images, plus de dialogues, plus de reportages directs. Nous avons pris des dispositions pour que le journal devienne un miroir qui se promène sur toutes les routes de France et du monde.
Radio sans nous.
Radio without us.
Radio Bedonina.
A priori, ça concerne toute personne ayant des mains, un nez et une bouche.
Bonjour, vous êtes à l'écoute de Radio Sans Nous et c'est une émission en direct, c'est l'émission généraliste où on va discuter un peu autour de, du travail social et de la santé mentale, mais aussi de la zététique. C'est une émission qui est en direct, donc du coup si vous avez des questions, il y a moyen de nous les poser et on peut en discuter et ça, ça peut se passer sur le chat de Radio Sans Nous. Alors comment est-ce qu'on fait pour aller au chat? On passe par le blog dans lequel, a priori, vous écoutez la radio, qui est covid19.cma-pdll.org. Alors, on est pas mal là, dans le petit studio numérique. Du coup, peut-être on peut commencer par faire un petit tour des noms et des personnes.
Donc, Régis est toujours confiné en région, mais je ne sais plus où.
Pascal.
Thomas.
Chris.
Clo.
Manu.
Et je crois qu'on a fait le tour. Hein.
Bon.
Alors bien évidemment, des fois, il y a un peu de blanc parce qu'on n'est pas ensemble, hein, donc on ne se voit pas. Donc effectivement, c'est des pratiques d'émission un peu singulières. Et a priori, ça devrait durer un peu de temps, malheureusement. Donc là, on a une émission, à la première partie... tu le disais, travail social, santé mentale, c'est une mission un peu coordonnée par le secteur qui s'appelle SPACE. Mais Pascal, tu peux peut-être nous le présenter, ce secteur.
Bah oui, le SPACE au CMEA Pays de Loire, mais santé mentale au niveau CMEA toute la France. Nous sommes le secteur santé, psychiatrie, action sociale des CMEA Pays de Loire. Et puis on remercie les copains et copines de la radio Sans Nous de nous accueillir aujourd'hui. Donc, différents points de vue, du côté du médico-social, de la psychiatrie, de la protection de l'enfance, et puis au premier temps de ce menu, eh ben, je passe la parole à Thomas pour qu'il nous amène quelques actualités françaises autour de cette thématique.
Bon, moi, l'idée, du coup, c'est de témoigner un peu de, pas forcément de ce qui se passe à l'intérieur de l'hôpital où je travaille, mais plutôt globalement dans les... de la difficulté d'articuler les recommandations par rapport au Covid avec le travail de la psychiatrie. Du coup, je peux commencer peut-être par dire un mot par rapport aux gestes barrières sur les recommandations qui sont faites sur la protection nécessaire entre les gens, les masques, le fait de se tenir à distance les uns des autres et toute la difficulté de pouvoir articuler des soins psychiques, c'est-à-dire... qui se base quand même sur la relation à l'autre dans un contexte comme celui-ci. Il y a beaucoup de services hospitaliers, notamment les services d'extra-hospitaliers en France, de psychiatrie adulte ou de pédopsychiatrie, qui ont dû fermer leurs portes du coup pour le moment avec l'impossibilité de pouvoir prendre contact et puis d'être accueilli dans ces centres de soins-là quand on en a besoin. Il y a la plupart des services hospitaliers en extra-hospitalier. Donc les services de consultation, les hôpitaux de jour, ils ont une activité très restreinte du côté de l'accueil des urgences graves, voilà, des décompensations ou des personnes sortant d'hospitalisation seulement. Et du coup, ça, c'est toute la difficulté de pouvoir continuer à articuler le soin au long cours des personnes qui en ont besoin, des enfants qui en ont besoin, des familles qui en ont besoin, avec toute la créativité qu'il y a à trouver pour pouvoir assurer ces soins-là. Donc ça passe beaucoup par le téléphone, par les téléconsultations. Je sais qu'il y a certains services où la visio, elle est utilisée. Donc ça demande beaucoup de réorganisation au niveau des équipes de soins et puis de repenser aussi à partir des interdits puis des limitations qu'on a, les soins qu'on peut proposer et puis la relation soignante qu'on peut proposer aux patients qui bénéficient de la psychiatrie ou de la pédopsychiatrie. Ce que je disais quand même, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'assez antinomique, à mon sens, sur la manière dont on vient rencontrer l'autre en ce moment, et que les recommandations sont plutôt d'éviter la rencontre. Alors comment on soigne les gens quand notre outil de travail, c'est d'aller rencontrer l'autre là où il est, dans sa souffrance, quand on a, pas l'interdiction, mais de fortes recommandations à éviter de rencontrer l'autre, à pouvoir même se protéger de l'autre qui est susceptible de nous contaminer. Voilà, pour tout un tas de personnes quand même qui sont dans des grandes anxiétés, des grandes angoisses ou parfois même un rapport à l'autre tout à fait menaçant, il y a quelque chose comme ça qui rajoute, je veux dire, à l'insécurité dans la relation à l'autre et qui n'aide pas du tout au travail de soins et de confiance qu'on peut installer dans une relation soignante et peu importe son statut professionnel. Voilà ce que je peux dire globalement. Et puis, voilà, c'est aussi en ce moment toute la difficulté là du déconfinement qui arrive en France et puis de la manière dont on avance un peu à vue quand même sur comment on va pouvoir continuer à assurer les soins de nos patients, dans quelle mesure on va pouvoir réaccueillir les gens dans les centres, comment on va organiser les salles d'attente, des choses comme ça par exemple, comment les groupes vont pouvoir se tenir ou ne pas se tenir, sachant que les premières recommandations, elles sont quand même d'éviter le travail de groupalité, qui quand même fait partie intégrante du travail en psychiatrie. Donc ça, c'est quand même assez difficile de penser la suite et les mois à venir pour les équipes soignantes. On avance un peu à vue et puis les recommandations, elles changent quand même à la petite semaine, quoi. Voilà ce que je peux un peu dire.
Dans le fait que les recommandations changent à la petite semaine, comme tu disais, c'est l'impression quand même que beaucoup de professionnels renvoient de ne pas être du tout même consultés ou concertés. Ça tombe comme ça. Donc la règle tombe comme ça et il y a une impression de la subir.
Bah, en tout cas, je sais qu'au niveau de tous les centres hospitaliers, il y a des points de crise, on va dire ça, appeler ça comme ça, avec la manière dont le ministère de la Santé donne des préconisations à partir des découvertes scientifiques aussi. On voit bien que c'est quand même un peu le flou encore sur le devenir de ce virus là et de cette pandémie. Du coup, il y a à la fois l'articulation avec la réouverture des centres, des services et des soins, la manière dont on peut maintenir ça, et puis en même temps toutes les précautions parce que toute l'incertitude sur l'avenir, sur un reconfinement possible peut-être dans quelques mois. Enfin voilà, ça c'est quand même assez énigmatique, et c'est sûr qu'il y a des groupes de pilotage, et puis après, du coup, ça donne quelque chose d'assez vertical sur la manière dont on doit pratiquer quand même les recommandations.
Et dans cette actualité, est-ce qu'on sent la remise en cause peut-être de certains services, je pense à des hôpitaux de jour ou autres, est-ce qu'on sent que c'est pas l'occasion de...
Alors, pour le moment, il n'est pas question de ça, en tout cas, moi, dans les échos que j'ai. Par contre, ce qu'on entend, c'est que quand même, le fait que les téléconsultations, par exemple, elles ont fonctionné, il y a quelque chose de comment on pourrait maintenir maintenant des soins ou à terme des soins en téléconsultation, ouvrir un travail à distance, qui interroge quand même, parce que l'action de la rencontre clinique, elle se fait quand même dans la rencontre physique d'abord, et puis l'instauration d'un lien, elle se fait d'abord en présentiel avant, je crois, de pouvoir se faire au téléphone quand on est avec des personnes dans des grandes vulnérabilités psychiques.
D'accord.
Donc voilà, on en est plutôt à des endroits comme ça pour le moment. Après, c'est sûr que tous les services qui travaillent avec des supports de groupalité, donc les hôpitaux de jour, notamment tous les CATTP, les groupes d'activités thérapeutiques, ça, sur les prochains mois, il y a quand même une lisibilité très floue, sachant que globalement, les recommandations, elles disent que pas plus de trois patients en même temps. Voilà, quand on travaille dans des hôpitaux de jour, on accueille parfois des groupes de 10, 15 personnes en même temps. Voilà, ça ne sera pas du tout possible dans les mois à venir, par exemple.
Oui, sans forcément... de date, de deadline, c'est-à-dire absolument. Jusqu'à la fin de l'année ou début 2021.
Même on entend plutôt ça, début 2021.
Pascal, on a parlé de la question de l'angoisse des patients, parfois l'angoisse des professionnels. Qu'est-ce que tu peux en dire?
Je pense que la question de l'angoisse, quelquefois, se confond avec un terme que certains médias utilisent à tort et à travers, qui est le traumatisme. L'utilisation de ce terme-là, pourquoi plus trauma qu'angoisse, et à quoi ça sert ou à quoi ça peut servir d'utiliser des termes à part créer la peur ou la pression, hein. Alors c'est vrai, comme je peux citer Bowlby, hein, lorsqu'il y a une pression autour de nous, nous sommes obligés de nous adapter, sinon nous sommes éliminés. Donc, de certains thèmes produisent plus de pression que d'autres. Alors, l'utilisation de la peur, elle est souvent surutilisée pour que les personnes ne transgressent pas la limite du confinement. Ça sert à ça. Mais la peur ne veut pas dire traumatisme. La peur, c'est de l'ordre de l'axe imaginaire. Hein. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver ? C'est une effraction psychique. Hein. J'ai peur de l'attraper. Donc, c'est tout le rapport à l'angoisse. Hein. C'est ce que nous avons à traiter. L'angoisse plus que le trauma. Alors, tout le monde bricole pour faire exister quelque chose de l'extérieur. Extrêmement important. Hein. Amener de l'extériorité, c'est ce que la radio, sans nous, peut faire. Hein. C'est les réseaux sociaux, c'est le téléphone, malgré le confinement. Hein, il y a quelque chose qui existe. Donc, c'est ça notre échappatoire à l'angoisse. Donc, l'importance aussi que nous aurions à ouvrir quelque chose autour des groupes de parole après le confinement. Hein. C'est pas surtout ne pas être dans le déni de ce qui s'est passé pour chacun d'entre nous. Nécessité de mettre en mots, de mettre en parole de ce que nous avons vécu, ce que nous avons bricolé ensemble pour que les collectifs puissent tenir, soutenir, envisager l'avenir. Voilà. Donc ça nous amènerait aussi à proposer aux équipes comme en formation ou des différentes équipes qui sont en lien avec du public, eh bien, d'amener de l'extériorité, là déjà, comme un quoi de neuf, par exemple. Hein. Comment l'extérieur a existé pour toi? Comment as-tu compensé ta privation de liberté de circuler? Très important. Donc, les personnes auraient à se raconter en équipe. L'apportage du collectif nous semble de nouveau très important. Et puis, à tous de les écouter en associant, en écho, les dires des uns et des autres. Donc, pour échapper à l'angoisse, la question du collectif portée par un collectif, la question de mettre du dehors dedans, mais c'est ce que l'on fait déjà actuellement, nous sommes extrêmement primordial. Si la peur exerce sur nous des angoisses, alors autant les signifier en groupe pour essayer de les dépasser. Et je ne parle pas là, évidemment, il y a aussi une analyse politique à voir.
Et c'est le collectif qui agit pour essayer de sortir un peu de l'angoisse.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est le collectif, mais c'est surtout la parole des uns et des autres, parce que la parole, c'est ce qui nous rend humains, hein, c'est ce qui nous humanise. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc, plusieurs choses hein, qui nous semblaient importantes aussi de mettre en place et que chacun bricole de son côté. Alors, le bricolage, il est évidemment, c'est un bricolage intelligent. Hein. Alors, deux petites propositions qui ont déjà été faites, notamment dans la protection de l'enfance autour d'une maison d'enfants à caractère social. Ou depuis le confinement avec deux copains des CMEA, Fred, Tom et moi entre autres, eh ben on fait équipe quelquefois à distance pour élaborer justement un projet, hein, mettre de l'extérieur dans cette intériorité institutionnelle. Donc on a élaboré un projet cabane, aménagement de l'espace hein, dans un parc, où deux groupes d'enfants, des petits de 4 à 7 ans et des ados de 12 à 15 ans, qui sont dans des espaces différenciés et qui justement permettent d'échapper à ce confinement en créant, en jouant, en imaginant. Et puis surtout, hein, c'est ce que disait Thomas, dans la rencontre avec l'autre. Parce que la rencontre avec l'autre, c'est l'axe support. Sans cet axe support, eh ben, ça ne fonctionne pas. Et bien souvent, l'écran fait écran. Ça me semble extrêmement important, c'est que la question de la parole qui engage, elle engage aussi le corps. Donc ça, c'est quelque chose qui, il faut pas que ça nous ampute, quoi. Alors voilà, donc Frédéric, lui qui est avec les ados, il écoute les ados, évidemment, dans un premier temps. Et puis les ados, ils disent, nous, on veut une maison solide et dure, et avec un espace autour. Moi, je me dis, tiens, ils ne voulaient pas faire des cabanes. Hein. Ça fait trop petit en termes même de cabanes. Et en temps de confinement, l'espace est nécessaire. Et je me suis dit, une maison en dur, c'est l'histoire du petit cochon, mais qui est bien intégré. Hein. Ils ont tout compris. Il faut que ça dure. Alors, de discussion en construction de cabanes, est venu un groupe qui s'est constitué. Et puis, chez les petits, alors là, c'était le tipi. Ils ont imaginé le tipi. Et puis, tout de suite, les enfants sont mis en mouvement. Hein. Et les petits sont partis dans le bois derrière le parc, très important, le bois derrière le parc. On sortait du confinement, il fallait aller en dehors du mur ou à l'extérieur du mur. Administrativement, ça a été possible. L'établissement a permis à l'institution de pouvoir exercer justement exercer ce travail. Donc, les enfants aussi le bois mort des arbres dans le petit bois au fond du parc, ils le transportent jusqu'à l'endroit où ils ont choisi eux-mêmes de faire leur cabane. Durant tout l'après-midi, ils auront de cesse de construire et expérimenter leur installation. Dans le groupe, confiné, bien souvent des chamailleries, souvent de rivalité. Mais là, les enfants, ils font cause commune dans un projet qui les construit. Ça, c'est très important parce que ces allers-retours sont aussi permis. Ce qui est aussi important, c'est de faire équipe avec d'autres dans cette extériorité-là. C'est que les copains qui venaient des CMEA, eh ben, ils ont fait aussi équipe avec les personnes à l'intra. Les éducateurs éducatrices, les aides-soignants, le jardinier, la personne qui était à l'entretien. Donc ça a été aussi une continuité dans le travail et puis une continuité aussi pour les enfants dans la permanence des adultes. Extrêmement important pour eux. Voilà. Alors, les ados, ils ont appelé ça le chantier. C'est important, les termes, le chantier. Et puis, les petits, eux, ont appelé ça la cabane. Il s'est avéré aussi qu'autour de ces cabanes, bah, s'est inséré de l'aménagement, des jeux collectifs, un reportage photo, un journal, du jardinage. Et puis, la proposition d'enregistrer, peut-être avec une émission, avec la radio sans nom. Voilà.
Donc ça, c'était une première vignette, mais qui est intéressante, on le verra dans le témoignage qu'on pourra écouter après, c'est que même dans une situation de crise, même avec du confinement, il y a encore du possible. Ça nécessite un peu de nouveauté, parfois du tiers extérieur, mais en tout cas, il y a encore du possible malgré tout.
Oui, il y a du possible, mais aussi ce qui est important, il n'y a pas qu'au niveau des enfants, des équipes, il y a au niveau de l'institution. Parce que l'institution a la nécessité du temps de ce confinement, parce que l'angoisse est tellement permanente que les cadres ont explosé. Les cadres de notre travail, on en perd nos outils. On fait place d'abord à l'organisation première, c'est ce que disait Thomas en psychiatrie. Alors, ce qui était très important aussi de mettre cette extériorité, c'est important qu'il nous a semblé, à nous trois là, d'écrire à l'institution, à tout le personnel, qui n'étaient pas forcément conviés à travailler avec nous réellement autour des cabanes. Mais il était important, pourquoi ? Parce que cette écriture donnait trace de la vie. Et cette écriture-là permettait aussi ce qu'on peut appeler une greffe de transfert, c'est-à-dire à la Gisela Pankoff. Comment greffer du désir là où l'autre qui est confiné n'en a pas état ? Alors ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que de ces textes-là écrits sur ces vignettes cliniques-là, à amener des collègues qui travaillaient en milieu ouvert, confinés, nous dire il y a de la vie dans l'institution, ça nous donne à nous aussi de l'oxygène. Donc c'est très important ce qui s'est passé aussi dans cette extériorité-là pour les différentes équipes.
D'accord. Eh bien, je propose, Pascal, parce que tu avais une deuxième vignette, mais je propose qu'on l'écoute un peu plus tard et qu'on se fasse une petite pause musicale. Je crois que JB nous a préparé ça.
La chanson que Pascal demandait tout à l'heure, Les gens qui doutent, interprétée par Jeanne Chéral et Vincent Delerme.
J'ai deux amis qui s'appellent Albin de la Simone, Jeanne Chéral.
Oui, bon, on a bien dit Les gens qui doutent, c'est parti.
Je comprends, moi aussi je les aime bien. Et en fait, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais en fait, on est d'accord sur une chose, sur une chanson qu'on aime beaucoup tous les trois, qui est une chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle Les gens qui doutent. Voilà. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté.
J'aime leurs petites chansons. Même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu.
Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Eh bien, on a un petit temps autour d'une vignette clinique, mais avant, Thomas, tu voulais nous parler un peu, préciser des éléments sur la question de l'équipe.
Oui, ce qui me semble assez important peut-être de témoigner, c'est toute la difficulté là en ce moment avec le Covid, et puis sur les mois à venir sans doute. De l'action du travail en équipe et puis des collectifs de travail sur l'impossibilité qu'on va avoir dans les équipes de soins de pouvoir se réunir à plus de entre 5 et 10 à peu près. Et on a quand même un certain nombre, dans la plupart des équipes quand même en psychiatrie, les équipes elles sont pas composées de 5 à 6 personnes quoi. On est plutôt des groupes un petit peu plus importants dans un certain nombre de centres de soins ou de services d'hospitalisation, et toute la difficulté ça va être de créer des outils puis de voir comment on peut faire perdurer nos collectifs de travail dans ce contexte-là, comment on va pouvoir se transmettre les informations, comment on va pouvoir porter les soins à plusieurs sans que ce soit des pratiques individuelles, sachant que quand même, comme le disait Pascal tout à l'heure, la question de l'institution, elle a quand même été sacrément entamée par cette pandémie et puis par les gestes barrières. Donc ça fait tout le travail de réunion d'équipe, de synthèse, de pouvoir faire des temps de reprise sur comment les soins se passent avec les patients, et essayer d'analyser un peu les choses, la manière dont les liens ils se tissent, comment les fragilités des patients elles peuvent ressurgir dans le travail en équipe. Toute cette dimension là il va falloir quand même se pencher sérieusement dessus pour voir comment on peut bricoler. Je crois qu'on va devoir quand même dans les mois à venir bricoler des choses pour que le travail d'équipe y perdure, parce que c'est quand même un support et un des axes essentiels du travail en psychiatrie, quoi. Voilà, c'était simplement pour témoigner de ça.
D'accord.
Pascal, tu avais une deuxième vignette clinique plutôt chez les petits et autour du jeu collectif.
Alors, je suis toujours dans cette question de l'extériorité, mettre de l'extériorité dans ce temps de confinement, hein, du dehors dans le dedans, parce que ça empêche évidemment la confusion des corps, et donc ça entrave la violence. Alors, les enfants, les jeunes, les adultes, ils jouent à construire, hein, mais comme le disait Jean-Houry, c'est sérieux, c'est du sérieux. Cela amène de la considération à l'enfant. Et cette semaine, chez les petits, c'était l'anniversaire de Sophie. Tom est arrivé avec son accordéon. Tout le monde s'est mis à chanter et chacun a essayé de jouer de l'instrument. Chacun, avec beaucoup de douceur, ont fait sortir un son inédit. À leur grande surprise, elles se sont transformées en accordéonistes. Tous les enfants, sans exception, se sont pris au jeu de l'écoute musicale. Et puis après, ils ont repris, assis des gros morceaux de bois. Et puis grâce au cordage, ils ont aménagé des grandes balançoires, des ponts de singes, éclats de rire assurés. Où on fait mine de tomber, mine d'être déséquilibré, où adultes et enfants jouent l'authenticité du fou rire et du jeu. Sophie est légère. Sophie est en surpoids. Elle rit. Elle rit parce que pour la première fois, elle se balance à cette balançoire éphémère qui lui permet de rencontrer et d'expérimenter l'air, les airs. Le jeu, dans ce collectif, il existe que parce qu'il est partagé. Il n'y avait pas de corps à corps violent, comme quand ils sont trop agglutinés, confinés, et qu'ils ne peuvent pas se détacher du réel qui leur colle à la peau, rapport à leur histoire. Où le toucher, quel qu'il soit, se transforme en agressivité. Accéder au jeu, accéder à l'imaginaire, c'est le pas de côté nécessaire pour vivre ensemble. Ils font, dans ces moments de jeu, l'expérience d'un autre possible. Sophie va s'essayer au pont de singe, 30 minutes pour tenir en équilibre sans mettre le pied à terre. Jacques vient à sa rencontre pour l'aider, pour lui servir de béquille. Elle l'accepte. Il finit par lui faire un bisou sur la joue. Elle est toute sourire. Puis, toute seule, en équilibre, elle finit par sautiller sur la corde. Elle glousse de plaisir, me dira Tom. Je salue et cite par la même occasion mes collègues qui s'y reconnaîtront. Toutes ces installations, n'est-ce pas trop dangereux? Vous êtes au quotidien dans une prise de risque, un équilibre qui ne se voit pas, mais qui est d'autant plus périlleux. La rencontre. Et vous osez? Jeudi, branle-bas de combat. Boris a vu un animal à deux têtes en traversant le champ où sont les brebis. Le petit groupe retourne sur ses pas, intrigué par ses dires. Les enfants semblent subjugués devant la scène. Boris avait vu juste. Tom leur explique le scénario de la brebis morte en mettant bas. D'où les deux têtes pour un même corps. Les deux autres adultes présents pensent que les enfants n'ont pas à voir le spectacle, qu'ils doivent partir parce que c'est trop triste. Que c'est riche. Les adultes ont bien fait les choses, ils ont signifié ce que l'on pouvait ressentir. Pour les uns, tristesse, mort et mort pour un autre, et pour un autre, la nécessité de mettre des mots justes sur une scène de vie et de la mort. Voilà ma dernière vignette clinique. À toi, Régis.
Tu dégueules avant. COVID-19.
C'est Radio Sans Nous.
Non, prenez des notes, hein, parce que je vais pas répéter. Hein.
Un témoignage à faire passer, une info à diffuser ou du temps pour filer un coup de main, bienvenue. Envoie-nous un mail à radio.sansnous@cma-pdll.org.
Comment ? J'ai pas compris. Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute.
Tu veux participer à une radio d'éduc pop ? Bah, rejoins-nous.
Ah, ça c'est vrai. Ça vous intéresserait pas de participer ?
Ah, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. À rien. C'est pas mon genre de participer. Jamais je participerai.
Oui, là donc, on va s'écouter une interview. Hein. Il y en a pour une quinzaine de minutes, une interview... d'un secteur psy dont on ne dira pas, mais il est en France, voilà, et je pense qu'il est à l'image de beaucoup de secteurs psy. Alors, on va le voir, hein, c'est le secteur qui était attaqué avant le Covid, et comment le Covid va peut-être provoquer des choses, en tout cas, peut-être le mettre encore plus en danger ou pas. Donc c'est une interview, alors désolé pour la qualité du son, hein, mais on a dû faire une interview à plusieurs, on n'avait pas... les bons micros pour faire l'enregistrement. Donc, il va peut-être falloir relever un peu le son pour bien l'entendre. Mais sinon, le texte, il sera déposé sous peu sur le site d'SMEA. Hein, c'est covid19.cma-pdll.org. Et c'est dans la rubrique solidarité, médico-social à The Psy, hein, où il y a beaucoup déjà de textes du SPAS, et donc du coup ce témoignage il sera intégralement lisible sur le site. Mais là je vous propose d'écouter cette interview.
Radio sans nous, COVID-19.
Eh bien, désolé pour le son, mais on a des petits problèmes techniques en termes de son. C'est-à-dire que voilà, j'ai envoyé certainement trop tard la bande-son. On a dû régler pour rendre anonyme les voix une parole accélérée, mais apparemment trop accélérée. Et donc, on a eu des retours sur le chat pour dire que le son n'était pas assez bon. Donc, on va passer à une alternative hein, qu'on avait prévue au départ. Donc, on a un plan B. Et le plan B, c'est Chris qui va nous faire une lecture du texte, texte que vous pourrez aussi retrouver sur le site des CMA. Et le texte reprend les éléments de l'interview, même si sur une interview, de fait, c'est pas exactement la même chose, mais les éléments essentiels sont dans le texte. À toi, Chris.
Oui, donc je vais me faire la porte-parole, en fait, des soignants qui ont témoigné par rapport à ce secteur de psychiatrie, et donc ces personnes se nomment comme étant des soignants, parce que ce sont des soignants d'un secteur de psychiatrie, et qui représentent à la fois les deux lieux de soins, c'est-à-dire extra-hospitalier, et l'unité d'hospitalisation complète. Alors, quelques semaines avant le confinement, notre secteur se trouvait profondément bouleversé par une toute nouvelle organisation, en arrêtant la circulation des soignants intra-extra pour mettre en place des équipes dédiées par structure de soins. Alors déjà, avant le confinement, il y avait des choses qui étaient un peu compliquées, beaucoup compliquées même. Ainsi, début mars, nous testons avant l'heure les effets du confinement. Donc, chaque équipe se retrouve en vase clos dans son collectif. Nous ne voyons plus et ne prenons plus en charge les patients en hospitalisation complète qui d'habitude viennent sur les centres de jour où nous travaillons aussi. Cette circulation intra-extra-hospitalière des patients et des soignants a pourtant toujours été un soutien important dans la prise en charge, créant un lien, un passage facilité dans un sens comme dans l'autre, aussi bien pour les soignés que pour les soignants. Cela donnait une connaissance importante des patients dans la globalité de notre secteur et également pour les patients qui nous ont déjà rencontrés lors de leur hospitalisation complète. De plus, la réunion extra-hospitalière qui permettait que les équipes se rencontrent autour de prises en charge communes est purement et simplement supprimée. Petit clin d'œil au slogan actuel qui dit « Restez chez vous ». En tout cas, ce pré-confinement nous met dans des positions de petits isolats, chaque structure devenant un satellite de la structure hospitalière à temps plein, sans possibilité de communication. L'arrivée du Covid-19 et du confinement oblige le service à se réorganiser en urgence. Des infirmiers et aides-soignants, des CNP, CATTP et hôpital de jour deviennent donc soutenir l'intra pour pallier au manque de personnel et renforcer les équipes de journée pour être en nombre, pour être plus disponibles pour les patients, afin de les accompagner dans le parc et maintenir des ateliers. Une bouffée d'air pour l'unité à temps plein, qui en 15 jours souffrait déjà de ce fonctionnement en vase clos. Cette annonce du confinement général est pour nous un comble avec ses recommandations indispensables et paradoxales, notamment celle-ci. Il faut travailler les distanciations sociales. Pourtant, en psychiatrie, c'est tout l'inverse qu'on essaie de travailler. Cette mise en place du confinement n'empêche pas les cadres et les médecins de continuer à supprimer les moyens de communication entre l'intra et l'extra, les quelques moyens qui subsistaient encore. Les visites restreintes à une personne une fois par jour depuis le week-end deviennent interdites. Les familles peuvent tout de même venir en restant à l'extérieur pour amener du tabac, des friandises ou récupérer le linge sale. Pour se parler, ce sera le téléphone, mais on peut se voir derrière les vitres et se faire des petits signes. On s'est trouvé dans une sorte de sidération, tant du côté des soignants que des soignés. On ne s'imaginait pas que cela pouvait, ce que cela pouvait représenter. C'était quelque peu irréel. Le décalage de la situation calme et relativement calme entre la région et les images qu'on pouvait avoir d'autres régions, ça durait toute la semaine. Et ça venait tout figer et ça nous a demandé un certain temps pour pouvoir repenser les ateliers et la vie quotidienne. Cette première semaine, face à l'angoisse grandissante dans le pavillon, la réponse fut essentiellement médicamenteuse lors de cette première semaine. Au lieu de repenser les entretiens et les ateliers autrement, et puis ça s'est atténué au bout de quelques jours. Il y a un autre exemple, faire fumer les soignés, un par un, je crois que Thomas en a parlé tout à l'heure, ou il en a été question déjà, un par un pour éviter le regroupement des personnes dans la cour, mais qui crée un attroupement devant la porte du fumoir. En créant cette attente devant la porte, nous avons frôlé une escalade de tension et de violence. Il se passe aussi une flambée des injonctions paradoxales quand la boussole s'affole. Les CMP sont fermés et les soignants se retrouvent agglutinés dans des petits espaces, loin de la distanciation préconisée. Par exemple, dans la salle de soins ou dans d'autres endroits, dans les couloirs, enfin, etc. La sidération nous fait en vivre une perte d'orientation. Par quel bout peut-on tricoter quelque chose qui ait du sens et qui tienne? Les tempéraments se réveillent. Ça pousse certains soignants, soit dans la résurgence de peur ancestrale, par exemple la tenue intégrale des soignants, la carapace à la folie de l'autre, hein, ce serait ça, c'est-à-dire il faut mettre les blouses, mais aussi les pantalons, les chaussures, enfin, etc. Bon, on manque de masques, mais bon. Ou plus largement, la mise à distance de l'autre. D'où commettre derrière l'écran ou accroché à son téléphone. Soit les caractères s'exacerbent et on frôle le totalitarisme avec une fonction cadre qui fait chef. Finalement, nous sommes tous sous contrainte. Cette première semaine nous a fait basculer dans le néant, il n'y avait plus rien. Toute l'attention était portée aux tâches hôtelières et à la distribution des traitements. Avec l'histoire des masques, ou comment on te donne des consignes soi-disant sanitaires et qui évoluent en fonction du réapprovisionnement. Il faut chercher l'erreur. Hein. Comment les gestes barrières sont antinomiques de la relation en psychiatrie? Comment on réinvente autour de ça? Tout ça sont des questions. Puis la vie quotidienne reprend le dessus. Les ateliers retrouvent leur place. Alors les ateliers habituels, comme d'autres ateliers qui se mettent en place de manière éphémère, et qu'il faut bien sûr adapter pour rester dans les mesures d'hygiène préconisées, c'est sûr. La clémence de la météo nous a aidés vraiment, car le jardin a pu être investi tout au long de la journée, et c'est un espace qui donne un peu d'horizon. À l'heure de la solidarité nationale, le champ de l'inhumain est à l'œuvre en psychiatrie. La distance, la réorganisation, plus d'ateliers du tout, plus de CATTP, plus d'hôpital de jour. L'accueil en CNP est très limité et uniquement sur rendez-vous. Beaucoup d'entretiens téléphoniques. Avec le peu de contacts, il a fallu aider les personnes autour de l'argent. Par exemple, la poste était fermée dans les campagnes. L'histoire de certains curateurs n'était joignable qu'une fois par semaine. L'arrêt des aides à domicile pour les courses dans un premier temps. Arrêt pendant 3 semaines par rapport à ça. Car elle n'était pas équipée de protection. La différence entre le rural et l'urbain aussi. C'est la proximité ou l'éloignement. En milieu rural, les parents viennent beaucoup en ambulance et n'habitent souvent pas à proximité de leur lieu, les patients, pardon, viennent beaucoup en ambulance et n'habitent souvent pas à proximité de leur lieu de soins. Et en milieu urbain, les transports en commun facilitent les circulations des parents qui viennent pendant le confinement, je ne sais pas pourquoi les parents reviennent souvent, ça doit être à cause de la pédopsie, ça. De mon travail à moi en pédopsie. En milieu urbain, les transports en commun facilitent les circulations des patients qui viennent pendant le confinement, même s'ils n'ont pas rendez-vous. Nos lieux de soins ont toujours été des structures ouvertes et dans l'accueil de tous avant la pandémie et avant la réorganisation du service. La première semaine, nous avons su un tâton, mais par la suite, un certain rythme plus apaisé était trouvé. Les patients se trouvaient rassurés que le lien soit maintenu, que ce soit par téléphone, par VAD, par mail. Alors l'annonce, pour qui c'était possible, alors l'annonce du 13 avril d'une poursuite du confinement encore un mois à corser les choses. On sent que la panique gagne. Les appels des patients, mais aussi des médecins traitants, des foyers, des référents ASE, tout ça, ça se met enfin, c'est beaucoup plus important que ça ne l'était au démarrage. Au vu de la baisse de la proposition des soins, le travail de fond est endormi. On est dans le factuel, dans la gestion de l'urgence. Il y a les patients qui nous racontent minutieusement leur journée, leur repas, à l'image du temps suspendu du confinement. Voilà la lecture de ce qui a été témoigné par ces personnes dans cet hôpital.
Et donc c'est certainement très représentatif de ce qui se passe dans beaucoup de secteurs à travers la France et peut-être même ailleurs.
Oui, moi je pense que ça fait lien avec ce qu'a dit Thomas.
Sur la question de l'équipe et sur la question des barrières. Est-ce que pour conclure un peu, Chris, Thomas, Pascal, vous avez envie de dire un dernier mot avant de passer à la deuxième partie de l'émission zététique?
Bah, moi, ce que j'aurais envie de dire, et puis je trouve le texte l'illustre assez bien, et puis même les exemples que Pascal elle pouvait donner du côté des vignettes cliniques, c'est comment dans les champs d'intervention sociale, sanitaire, de protection de l'enfance, hospitalier, etc., comment à un moment on peut essayer de bricoler pour que bah, les questions d'hygiène elles ne viennent pas et de recommandations sanitaires elles ne viennent pas empêcher la relation qui est quand même le support de nos travail dans ces champs-là et qu'il ne s'agit pas du tout d'atténuer le fait qu'il s'agit de se protéger, d'éviter les risques de contamination, hein, il s'agit d'être sérieux avec ça, mais néanmoins, il ne s'agit pas d'y perdre son humanité pour autant, parce que je crois que c'est quand même avec ça qu'on accompagne les gens dans nos structures au quotidien, quoi. Voilà.
Pascal, tu veux... Pascal, tu n'es plus là.
Ouais, moi, je voulais dire qu'il y avait plusieurs choses à retenir, hein, notamment les problèmes que produisent dans certains hôpitaux, certains managements qui profitent de cet état-là pour accentuer, je mets entre parenthèses, mais la démolition quand même de la psychiatrie de secteur et de ce qui pourrait rester d'une psychiatrie plus humaine, quoi. Donc ça, c'est quand même une inquiétude aussi par rapport à ce qui peut se passer. Je pense aussi que ça accentue tout ça, les inégalités sociales. On voit ça dans le soin, mais on peut le voir aussi dans bien d'autres domaines. Hein. Et puis, que ce confinement soit l'occasion d'accélérer des choses déjà à l'œuvre, quoi, par rapport à justement ce problème d'effacer, de faire disparaître un certain nombre de choses, quoi. Ou en tous les cas de les changer, et justement au détriment de la relation, de la rencontre et du soin.
D'accord. Est-ce qu'on a retrouvé Pascal ?
Oui. Moi, ce qui me semble important, enfin, dans le témoignage des copains, copines, là, du secteur de la psychiatrie, ben, d'abord, on n'est pas mort. Et puis, après la sidération, eh ben, la parole est reprise et nous est pas confisquée. Moi, ça me semble extrêmement important. La résistance commence par là, par un énoncé et par un engagement. Donc, bravo aux copains, copines qui ont pu s'exprimer. Et que, juste pour rappeler un autre type d'extériorité qui nous semble important, au CMA, on a monté un petit collectif d'écoute qui s'appelle le groupe à penser, qui se réunit tous les jeudis soirs à 19h, qui est un espace politique, un espace de pensée pour analyser et construire ensemble des réponses possibles à nos souffrances professionnelles et à nos questionnements actuels et à venir. Donc, on voit bien dans ce déroulé, que nous, dans nos rencontres, hein, de toutes les semaines, comment tout ça, ça s'humanise et comment le groupe est porteur de nos bricolages. C'est aussi une sortie d'angoisse. C'est aussi de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, voilà, c'était un exemple supplémentaire d'un groupe qui peut aussi recevoir, en tout cas, la parole de chacun, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit. Voilà. Mais merci beaucoup aux copains et copines de cet hôpital de nous avoir transcrit et émis ce qu'il en est de leur collectif qui est toujours existant et toujours vivant.
Eh bien, merci aussi à vous, Pascal, Chris, Thomas. Hein, on a reçu des messages pour nous dire bravo de vous avoir réunis, vous trois. Voilà. Et là, on va se faire une petite pause musicale. JB, tu nous as préparé quelque chose?
Ouais, alors du coup, de Justine, un titre qui s'appelle Tosca Yes. Voilà, c'est parti.
Radio sans nous, radio sans nous, COVID-19.
Peut-elle casser des briques?
Quoi?
Non, je sais.
Un toast aux exploités pour l'extermination des exploiteurs.
Le savoir est une arme d'instruction massive.
Ouais, tu calmes.
Souviens-toi que c'est les vainqueurs qui rédigent les livres d'histoire.
Une épitaphe pour quelques copains.
Non, je sais.
Eh bien... on démarre du coup la rubrique zététique après quelques petits cafouillages. Et aujourd'hui, on voudrait essayer de se donner quelques clés pour lire soi-même une publication scientifique. Alors, toute l'année, mais peut-être encore plus en ce moment, on est exposé à des articles et à une médiatisation plus ou moins intense de la science. Cette médiatisation de la science, elle est faite à partir d'études scientifiques. On voudrait ici parler de quelques aspects foireux, quelques limites là dans la médiatisation de la recherche, et donner à chacun chacune les moyens de s'en prémunir un peu. Alors, on a évoqué dans des émissions précédentes différentes études scientifiques, en faisant notamment la critique de la première étude de l'IHU de Marseille sur l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19. Et ben ça nous a demandé de retrouver l'étude, de la lire, de la comprendre. Et c'est de ce processus-là dont j'aimerais parler. Quand un article de vulgarisation dans Science et Vie, par exemple, s'intitule « Microbiote, il peut soigner diabète, cancer, dépression » ou bien « Robots, leur intelligence dépasse déjà la nôtre » ou encore « Médicaments, ils soignent mieux les hommes que les femmes, les biologistes révèlent l'injustice », eh ben, notre espoir, c'est de donner les moyens à chacun chacune d'aller regarder par soi-même ce que dit dans le détail le papier de l'étude scientifique qui est à l'origine de la publication. Alors commençons par le bout de la chaîne dans ce processus, c'est nous. On vient de tomber sur un article avec un titre de ce genre. Ça paraît fou, ça donne envie de lire. Ben, c'est fait pour ça. Et c'est déjà un premier biais. Les revues dites de vulgarisation scientifique, ou les grands journaux, ont intérêt à vendre leurs papiers, leurs articles, et l'une de leurs armes, eh ben, c'est de faire des titres suffisamment aguicheurs pour appâter le chaland. C'est la même mécanique qui fait que, perdu sur YouTube, on finit par cliquer sur des vidéos du genre « Ce serpent est capable d'avaler une vache ». Alors c'est pas faute d'être au courant, mais moi ça marche quand même un peu sur moi. Malgré tout, c'est bien fait. En lisant l'article, on s'expose à un risque non négligeable qu'il y ait des raccourcis dans l'article, des approximations, des distorsions, des erreurs, dans l'interprétation que le journaliste fait des résultats de l'étude. Alors, il n'y en a pas toujours, et elles ne sont pas toujours d'une ampleur dramatique, mais il peut subsister un doute. Notamment parce que écrire des articles scientifiques de qualité, pour faire ça, les grands journaux nationaux ont besoin de journalistes de qualité, formés à la méthode scientifique et à un minimum de rigueur journalistique, voire au domaine dont ils ou elles parlent. Et alors attention, scoop ou jugement de valeur, c'est pas toujours le cas. Moi j'attends d'un article de ce genre qu'à minima, il publie ses sources, notamment les références de l'étude en question, qu'éventuellement il donne la parole aux auteurs, autrices de l'étude pour la commenter, qu'en tout cas il donne la parole à d'autres chercheurs et chercheuses du domaine pour avoir leur avis sur la publication. Et qu'il mette les découvertes relatées en perspective par rapport à l'état de la recherche dans le domaine. Est-ce que cette étude va rebrousse-poil de l'ensemble de la recherche dans le domaine? Est-ce qu'elle confirme des résultats précédemment observés? Bref, qu'elle nous donne un peu de contexte. Mais tout cela, ça ne me suffit pas toujours pour trouver crédibles les faits annoncés. Alors, on peut parfois aller lire d'autres articles de vulgarisation un peu plus hard, un peu plus spécialisés, qui parlent de la même étude. Mais parfois, c'est nécessaire d'aller regarder par soi-même le contenu d'une étude. Et je pense que c'est un réel enjeu d'éducation à la science. Mon objectif étant que l'on sorte à la fois d'une confiance aveugle dans la science, du type « c'est publié dans mon journal, donc c'est publié dans une étude scientifique, donc c'est prouvé, donc c'est vrai ». Et je voudrais qu'on sorte aussi d'une défiance sourde qui serait du genre « c'est publié dans mon journal, mais les lobbies ont des intérêts, les scientifiques spéculent sans rien comprendre, et puis la science n'explique pas tout, ou que sais-je ». Alors ce que je souhaite, c'est pas du tout une posture relativiste, mais c'est une posture critique. Alors JB, je sais pas si tu... Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de mettre un petit moment de musique? Petite pause musicale, ou est-ce que j'enchaîne?
Tu peux enchaîner, je pense, c'est cool. Enfin, pour moi, ça va. Je sais pas pour les gens du chat, mais moi, c'est cool, je suis content.
Allez, et ben, on continue. Alors d'abord, c'est quoi une publication scientifique? Mais ça part d'une étude. Une étude, ça peut être plein de choses, ça peut prendre plein de formes en fonction des domaines ou du type de recherche dont il est question. Mais en règle générale, on se donne un objet, on fait une hypothèse dessus, et on va tâcher d'aller l'infirmer ou la confirmer. On va d'ailleurs plutôt tâcher d'essayer de l'infirmer. C'est-à-dire que l'étude, théoriquement, est construite pour réfuter l'hypothèse afin d'éviter un biais de confirmation, quelque chose qui serait du côté de « j'ai très envie que mon étude marche, donc je me donne les moyens pour qu'elle marche, et je bricole un peu ». Une fois l'étude menée, les chercheurs et les chercheuses, elles soumettent leurs résultats dans une revue à comité de lecture, elles soumettent leurs papiers dans une revue à comité de lecture. Alors, des revues à comité de lecture, il en existe des milliers, classées par domaine. C'est des revues qui sont destinées aux chercheurs-chercheuses, aux universités, plutôt a priori pas au grand public, mais voilà, c'est plutôt, elles sont pas faites pour ça. Et elles sont plus ou moins généralistes ou spécialisées. On a des revues comme Nature qui sont très généralistes, enfin qui vont pouvoir parler de géologie, de microbiologie, de physique, et puis des revues qui sont relativement spécialisées, qui vont parler que de la recherche dans la lutte contre le cancer, par exemple. Alors, une fois soumis, le papier, comme on dit, est l'objet d'aller-retour entre le comité de relecture qui travaille pour le journal et les auteurs-autrices. Le but de cette étape, c'est d'obtenir suffisamment de précision pour évaluer la qualité de l'étude. Cela peut éventuellement entraîner la modification du papier, on va rajouter des éléments, on va modifier les conclusions, voilà. Et ensuite, le comité de rédaction de la revue se base, entre autres, sur l'avis des relecteurs et relectrices pour décider si oui ou non il publie l'article dans sa revue. Alors, on dit souvent que toutes les revues scientifiques ne se valent pas. C'est vrai. Elles sont plus ou moins sélectives et rigoureuses sur la qualité des articles qu'elles publient. Certaines étant très très regardantes et d'autres beaucoup moins, au point que certaines revues se font payer pour publier n'importe quel article. Ça existe. Alors comment est-ce qu'on s'y retrouve là-dedans? Il y a différents outils qu'on appelle bibliométriques pour évaluer les revues et les publications. Le principal outil bibliométrique, c'est le facteur d'impact. On va faire très court, mais plus il est élevé, plus le journal est réputé prestigieux et exigeant. Alors Science et Nature, qui sont deux grandes revues, ont un score autour de 40, c'est parmi les revues les plus reconnues. Des revues... peu reconnus, on a des revues qui ont 0,02 de facteur d'impact, par exemple. Alors, le facteur d'impact, qu'est-ce que ça mesure? Ça mesure, excuse-moi JB, tu dis?
Comme Radio Sans Nous. On a un petit facteur d'impact.
Ah ouais. Le facteur d'impact mesure la visibilité d'une revue en calculant la moyenne des citations de chaque article publié dans cette revue. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est une évaluation quantitative qui a plein de limites et qui est l'objet d'énormément de critiques. C'est pas du tout quelque chose de qu'il faut voilà prendre de manière absolue. Mais malgré tout, c'est un indicateur qui, à moi en tout cas, me sert à indexer mon niveau d'alerte méthodologique. Par exemple, si je lis un article dans une revue qui a un facteur d'impact inférieur à 1, eh ben, ça me donne une bonne idée de la rigueur du processus d'examen qui a déjà été appliqué. Et en l'occurrence, inférieur à 1, je m'attends pas à ce que le processus de relecture ait été très très rigoureux. Alors, pour autant, l'article peut être très bien. Où est-ce qu'on peut retrouver une étude? Comment on peut faire pour essayer de retrouver une étude? JB, tu peux préparer peut-être une petite musique parce qu'à la fin de cette partie, après on va passer à autre chose, donc tu peux préparer ça. Okay. Un premier moyen, c'est de chercher sur Google Scholar pour retrouver l'article scientifique. Alors on va retrouver avec Google Scholar, si on a le nom de, alors le titre de du papier, c'est l'idéal, mais si on a le nom de la revue et le nom des auteurs-autrices, on va réussir à retrouver par exemple. On peut aussi aller regarder directement sur le site des universités ou des labos. On sait que ça a été fait par telle université ou tel labo dans telle université. Et bien, en allant dessus, on peut parfois retrouver certains des publis directement sur leur site. On peut aussi retrouver les articles scientifiques dans des plateformes de prépublication. Alors, par exemple, il y en a une qui est assez connue qui s'appelle Archive, ça s'écrit A-R-X-I-V, où on a aussi Biorchive, B-I-O-R-X-I-V. C'est des outils qui permettent une circulation plus large et ouverte de l'info dans le milieu de la recherche. Ça permet une relecture par les pairs plus rapide et plus large, etc. Bon, ça a aussi des inconvénients. Mais... Et sinon, et surtout, on peut utiliser SciHub. Alors SciHub, ça s'écrit S-C-I-H-U-B. Et c'est un site qui permet un accès gratuit à une très très grande partie de la recherche. Seulement, son accès n'est plus possible en France depuis 2019. Une décision du tribunal de grande instance de Paris oblige les fournisseurs d'accès à bloquer l'accès à SciHub. C'est vraiment très dommage. Seulement, on peut quand même y accéder. Je vous invite vraiment à le faire, à vous donner les moyens de le faire. On peut y accéder en utilisant Tor ou un VPN, c'est-à-dire qu'on va faire croire, on va passer par des serveurs qui sont dans d'autres pays pour accéder à SciHub. Et une fois dans SciHub, avec le titre de l'article, on retrouve la publication intégrale et c'est super. Est-ce que tu es prêt à mettre un petit coup de musique, JB, qu'on respire?
Oui, carrément. Vas-y, j'envoie si tu veux.
Super.
Alors j'en radio.
Sans nous. Yeah!
Alors, la suite de la rubrique zététique autour de comment est-ce qu'on fait pour aller lire soi-même un article scientifique, en tout cas de se donner quelques pistes pour réussir à le faire. On avait des remarques dans le chat qui sont très pertinentes et des choses que je savais pas notamment. Dans le chat, on nous demande déjà que les liens dont je parle, notamment Sci-Hub, etc., pour retrouver les différents articles, ce soit dans le podcast de l'émission, donc on le fera. Et il y a aussi une remarque qui dit que plutôt que de passer par Tor ou un VPN pour accéder au site à Sci-Hub, le site dont je parlais, une autre solution, c'est de simplement ne pas utiliser les DNS des fournisseurs d'accès Internet. Alors les DNS, c'est les annuaires, c'est le truc qui, quand je tape un site, qui va aller se connecter à la bonne adresse IP. Quand je tape un site dans ma barre de recherche, et ben il fait le lien entre ça et l'adresse IP que je cherche à contacter. Et en utilisant d'autres DNS que ceux de nos fournisseurs d'accès Internet, et ben on peut contourner cette interdiction de consulter Sci-Hub en France. Donc merci pour ces compléments. Alors, on en était. On en était à, ça y est, on a mis le grappin sur l'article qu'on voulait regarder. Alors, comment est-ce qu'on peut s'y prendre ? Bon, déjà, on a parlé, on peut regarder éventuellement dans quel journal ça a été publié. Ok, ça, on en a parlé. Maintenant, bon, un papier scientifique, ça fait aller à peu près entre 5 et 10 pages. Ça dépend sûrement du domaine de recherche, certes, mais moi, ceux que j'ai regardés, on est autour de ça, 5-10 pages. Et c'est un peu standardisé dans le format. Alors déjà, le titre, il nous renseigne déjà pas mal, et on constate l'éventuel décalage avec ce qu'on a lu dans Science et Vie, dans les exemples que je donnais tout à l'heure. On peut se rendre compte que finalement, déjà, rien que dans le titre, ça a l'air beaucoup moins spectaculaire. Ensuite, on a le nom des auteurs et des autrices. Alors, il y a des infos à aller gratter parfois, de savoir c'est qui, ils ont publié quoi déjà, bon. Mais surtout, en principe, ici, il y a leur déclaration d'intérêt. Donc si on soupçonne le fait que, mais est-ce que d'aventure... il serait pas un peu en collusion avec tel labo qui vend tel médicament, par exemple, ou qui produit tel médicament, eh ben, on devrait, théoriquement, le voir apparaître ici dans leur déclaration d'intérêt. Alors ensuite, la première partie d'une étude, c'est l'abstract. L'abstract, c'est un résumé en un paragraphe des éléments essentiels de l'étude, des résultats principaux et des conclusions qu'en sont tirées. À ce qui me semble, les abstracts sont toujours publics et accessibles à tous et toutes. Donc même si vous n'avez pas réussi à retrouver l'étude dans son intégralité, vous devriez pouvoir retrouver l'abstract. Ça suffit parfois de s'arrêter là pour comprendre que Science et Vie nous ont vendu du rêve ou de la merde. Et voilà, on peut s'arrêter là. Mais on peut aussi avoir envie d'aller dans le détail. Oui, vas-y, pardon, JB.
Et un ami de plus, Science et Vie.
Est-ce que j'entends vraiment très mal?
Non, ben c'est pas grave, je disais juste un ami de plus pour Science et Vie, vas-y.
Continue. Un ami de plus pour la radio, ouais. Après Raoult, Luc Montagnier, Science et Vie, ouais. Et on s'est fait sans Science et Avenir, je crois déjà, bref, les pauvres. mais ils le méritent. On peut, du coup, même si on peut s'arrêter à l'abstract, on peut aussi avoir envie d'aller dans le détail, voir si on trouve ça douteux, ça nous intéresse de comprendre comment ça a été fait, ben on peut aller regarder, c'est assez intéressant. Du coup, la deuxième partie d'une étude, d'une publication plutôt, c'est l'introduction. Alors, sa fonction, c'est de contextualiser la recherche, de dire quelles sont les recherches qui ont été déjà menées, qui sont reliées au sujet, qu'est-ce qui a motivé cette recherche, etc. Ça permet de prendre en compte le positionnement de l'étude par rapport aux études précédentes. Est-ce qu'elle est à rebrousse-poil ou est-ce qu'elle est dans le sens de ce qui a déjà été fait? Et si les résultats sont à contre-courant des recherches précédentes, il va falloir être nous-mêmes très exigeants sur la rigueur de l'étude. Comme on dit, des faits extraordinaires demandent des preuves extraordinaires. C'est une petite maxime de zététique. Et de science en général. Si je peux l'exemplifier, cette maxime, si je vous dis qu'il y a une licorne dans mon jardin, vous allez avoir besoin de preuves plus extraordinaires que si je vous dis, plus solides, plus conséquentes, pour me croire, que si je vous dis qu'il y a un mouton. Voilà, ça paraît moins extraordinaire et donc moins probable. Ok, la partie 3 d'une étude, c'est un peu le cœur du truc, c'est le matériel et les méthodes. Alors, matériel et méthodes, ça décrit les protocoles que les chercheurs et chercheuses ont suivis. Quels outils est-ce qu'ils ont utilisés? Où est-ce qu'elles ont utilisé? Pourquoi ces outils-là? Avec quels réglages éventuellement? Nous, on s'en fout des réglages, on n'a pas les appareils souvent, mais ça permet de savoir que c'est reproductible. Quand il n'y a pas les réglages, on peut se dire, ah déjà, c'est une limite méthodologique. On va savoir à ce moment-là, est-ce que c'est fait sur des humains, sur des souris? Est-ce que c'est de la recherche in vitro dans des éprouvettes? Bon. Dans la recherche médicale, par exemple, c'est ici qu'on comprendra dans le détail dans quelles conditions a été menée l'étude. Et on va regarder un petit peu, on va s'attarder. Par exemple, on va voir quelle est la taille de l'échantillon de patient. Une étude avec un petit échantillon n'est pas forcément mauvaise, elle peut être très bien faite, très rigoureuse et donner des résultats concluants. C'est souvent une étape nécessaire de faire une petite étude, mais mécaniquement, bah, ça limite la portée de ce qui est avancé. On évite moins facilement les biais statistiques. On va pouvoir savoir est-ce qu'il y a un groupe témoin, toujours dans le cadre d'une recherche médicale. Hein. Le groupe témoin, c'est une partie de l'échantillon qui nous sert de contrôle, de repère. Ça sert à limiter les facteurs de confusion. Si les personnes vont mieux, ben c'est pas forcément grâce au traitement. Donc pour mesurer l'efficacité du traitement, il faut théoriquement enlever tous les autres paramètres susceptibles de varier. Donc on va comparer les résultats obtenus par le groupe test qui reçoit le traitement aux résultats d'un groupe témoin qui, eux, reçoivent autre chose. Alors il y a pas mal d'enjeux sur la manière dont le groupe témoin est défini. Il peut recevoir un placebo, par exemple, c'est-à-dire un médicament dont on sait qu'il n'a pas d'effet, c'est juste du sucre, c'est une fausse gélule. Ou un traitement dont l'efficacité est déjà démontrée, par exemple, pour comparer l'efficacité du nouveau traitement aux anciens traitements. Selon ce qu'on étudie, ces deux pratiques, là, un placebo ou un médicament déjà efficace, ça peut être pertinent, ça peut aussi poser des problèmes éthiques. Enfin, voilà, ça dépend. on va savoir à ce moment-là de l'étude, donc dans la partie méthode, si elle est réalisée en double aveugle. Le double aveugle, c'est le fait de non seulement les patients ne savent pas si ils ou elles reçoivent un placebo ou le traitement, mais qu'également les soignants, au contact des patients, ne le savent pas non plus. Ça permet d'éviter une différence de traitement ou une différence, c'est pas de traitement au sens de produit, mais d'investissement dans le soin de la part des soignants. Du coup, seules les personnes qui traitent les données, parfois en temps réel, peuvent associer les résultats obtenus pour chaque patient à un groupe témoin ou test. Et enfin, on va savoir à ce moment-là, est-ce que l'échantillon est randomisé? Random, ça doit vouloir dire aléatoire en anglais. Un échantillon randomisé, c'est un échantillon où la répartition entre le groupe témoin et le groupe test est faite aléatoirement. C'est aussi ici qu'on peut trouver les différents critères retenus par l'équipe de recherche. Qu'est-ce qu'on mesure exactement? Qu'est-ce qui sera considéré comme un résultat positif ou un échec? Et ça va être défini au préalable. Des études qui modifient pendant leur étude, comme l'a fait le professeur Raoult, leurs critères, et ben, c'est tout claqué. Ensuite vient donc quatrième partie d'une étude standardisée, c'est le résultat. Alors les résultats, ils doivent être présentés à ce moment-là, théoriquement, ils doivent être présentés de manière brute, factuelle et non interprétée. C'est présenté sous forme de tableau, de graphique ou autre. Mais on notera ici, toujours dans l'exemple de la recherche médicale, qu'on va pouvoir constater peut-être des fois des toute petite différence entre les deux groupes observés. Et que cette toute petite différence, elle peut suffire à conclure à un effet et à publier. Je sais pas, on regarde un médicament qui fait baisser la tension et on considère que, effectivement, en moyenne, ça a fait baisser la tension de 0,01 point sur l'ensemble de l'échantillon. C'est tout petit, mais c'est significatif, c'est-à-dire on constate un effet et donc on publie. Alors, ça ne veut pas dire que c'est suffisant pour avoir un usage thérapeutique. C'est pas dire que c'est suffisant pour être exploitable. Et ça, c'est une des limites. C'est parfois, en tout cas, comme ça que on se retrouve avec des gros titres incroyables et finalement des effets nuls. C'est que, ça a suffi pour publier, mais ça suffit peut-être pas pour en faire quelque chose. Alors, c'est ici, donc, dans la partie résultat, qu'il va falloir qu'on revienne un petit peu sur la taille de l'échantillon, parce qu'elle joue énormément dans la compréhension qu'il faut avoir des résultats. Plus l'échantillon est petit, plus on s'expose à ce que le hasard ait joué un rôle décisif dans les résultats. C'est ce qu'on appelle le risque d'anomalie statistique. Plus l'effet est grand et plus les groupes sont importants, plus les résultats sont solides. Ce risque d'anomalie statistique, il est mesuré par un indicateur, qu'on appelle petit p ou la p-value. Et vous la retrouverez dans cette partie-là, cette p-value. Chaque fois qu'on a un résultat qui compare deux groupes, ou bien où on compare la corrélation entre deux phénomènes, on peut lui associer une valeur P, qui va notamment être lié à la taille de l'effet, à la taille de l'échantillon. Et plus la valeur P est faible, plus le résultat est solide statistiquement. Donc, on considère en science qu'un résultat est statistiquement significatif, alors, à partir de P inférieur à 0,05. Ça, statistiquement significatif, c'est trompeur, parce que significatif, on l'utilise en disant, enfin, dans le langage courant, ça, ça veut dire.
Ah, Manu, je ne t'entends plus. Est-ce que d'autres personnes t'entendent, d'autres personnes ne t'entendent pas? Où es-tu, Manu? Où allons-nous? Ah, eh bien, on va faire une petite pause musicale.
Radio sans nous, COVID-19.
Je me suis chopé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. Quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Fais que les devoirs à la maison, je fais ma semaine de 60 heures. Non seulement pour pas un rond, en plus pour finir chômeur. Veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, est lourd comme un cheval mort. 10 kilos d'indispensable, théorème de Pythagore. Si je dois m'avaler tout ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? L'essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité. C'est l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud. La haine, ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Quand je serai grande, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu, jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture, pour écrire des mots rebelles, à faire tomber tous les murs. Si l'école permet pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Tu dis que si les élections, ça changeait vraiment la vie. Il y a un bout de temps, mon colon, voter, ça serait interdit. Ben, si l'école, ça rendait les hommes libres et égaux, le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les marmots. Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant, papa, c'est quand qu'on va où? Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant, papa, c'est quand qu'on va où?
Et on a retrouvé Manu sur, sur Radio Sans Nous, même s'il y a des moments c'est un peu compliqué de s'entendre. C'est parti.
Alors, je ne sais pas exactement à quel moment j'ai été coupé, donc je vais reprendre un tout petit peu avant. Enfin, ce que je suppose être un tout petit peu avant. On est donc dans la quatrième partie d'une étude scientifique et on essaie de. Donc, c'est la partie qui présente les résultats. On disait que ces résultats devaient être les plus factuels possibles à ce moment-là. Ils ne sont pas commentés, c'est juste les résultats bruts. Et que pour évaluer le risque d'anomalie statistique, on va regarder une valeur qui s'appelle la p-value. Et la p-value, elle doit être au moins, plus elle est petite, plus c'est solide statistiquement, et qu'elle doit être, elle doit être inférieure à 0,05, cette p-value. Elle évalue le risque d'anomalie statistique. Je sais pas exactement qu'est-ce qui a été squeezé, donc je vais pas refaire tout le speech, mais ça vaut le coup d'y jeter un œil. Il y a des limites à ce critère, cet indicateur, il est limité, il pose des problèmes méthodologiques, mais il est quand même intéressant pour voir. Pour avoir une idée de à quel point est-ce que les résultats sont solides. Si on est à 0,0001, il y a peu de chances que les résultats soient dus au hasard. S'il est proche de 0,05, il y a quand même un peu de chances que peut-être il y ait des biais comme ça. La dernière partie d'une étude, c'est la discussion. Alors ici, les auteurs interprètent les résultats. Ils les mettent en perspective. Ils pointent les limites de leur étude, ils en font la critique, et ils suggèrent des recherches complémentaires pour y pallier. Voilà, c'est une partie qui est quand même pas mal intéressante, mais qui suffit pas en elle-même, parce qu'ils peuvent tirer des conclusions claquées de résultats, ils peuvent extrapoler en fait, ils peuvent extrapoler leurs résultats. Voilà. Bon, allez, on continue, c'est bientôt la fin, accrochez-vous. Quelques mots sur la question des. Donc là, on vient de faire un peu qu'est-ce qu'il y a dans une étude. Peut-être il faut se dire que les études sont pas, elles sont même si elles sont toutes structurées comme ça, il y a des études de nature différente qu'il faut peut-être distinguer. Il y a des études qui se servent d'un corpus de données existant. Par exemple, elle va s'appuyer sur les réponses. À des questionnaires sur un sujet mené depuis 20 ans par l'INSEE ou par une recherche précédente. On va prendre les données et on va mener une étude à partir des données. On a aussi des études qui, elles, vont construire ces données elles-mêmes et donc construire tout un protocole d'enquête ou de recherche pour tester une hypothèse et pour aller chercher les données. Et donc, ça pose ça pose des enjeux différents, ces différents types d'études. On a des études qui s'appuient sur des données déclaratives et donc et puis des données qui s'appuient sur des observations. Les données les études qui s'appuient sur des données déclaratives, elles posent au moins le problème du biais de désirabilité sociale. Par exemple, quand on va parler de sexualité et qu'on va demander aux gens, on va leur poser des questions sur leurs pratiques sexuelles, sur leurs habitudes, etc. Eh bien, on peut s'attendre au fait que peut-être c'est pas ce que ces personnes nous disent, c'est pas exactement ce qu'elles font, parce que on a envie de c'est un biais de désirabilité sociale. On a envie de se plier à ce qu'on imagine être ce que l'autre attend qu'on réponde. Plus ou moins, mais bon. Et on a aussi les méta-études. Alors, les méta-études, c'est particulièrement intéressant, ce qu'on appelle aussi l'état de l'art. C'est des recherches qui passent en revue l'ensemble des publications sur un sujet pour en faire une analyse globale. Et ces études, elles sont particulièrement utiles pour comprendre éventuellement pourquoi est-ce qu'on obtient des résultats contradictoires dans différentes études. Mettre le doigt sur les biais éventuels de certaines études en les comparant, et globalement, ça permet de prendre de la hauteur et de trouver les points aveugles dans un domaine de recherche. En l'occurrence, au groupe zététique, on s'était farci une méta-étude quand on s'était demandé on s'était posé la question de savoir est-ce que ce qu'on appelle la synchronicité menstruelle, c'est-à-dire le fait que les personnes qui ont des cycles menstruels, des règles, qui habitent ensemble finissent par se synchroniser sur leur cycle menstruel respectif. On se demandait est-ce qu'il y a il y a eu de la recherche scientifique là-dessus. Donc il y en a eu, et il y a eu différentes études qui concluaient à différentes choses, des choses contradictoires. Et c'est la lecture d'une méta, enfin c'est la fait, des gens ont fait une méta-étude sur ces différentes études qui permet de comprendre pourquoi les résultats sont contradictoires et donc de mettre le doigt sur les différents biais de certaines recherches. Alors, il y aurait plein de détails à donner sûrement, mais c'est déjà long et je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Il me reste deux points qui me semblent importants. D'abord, il y a de grandes chances que la publication originale, une fois que vous l'avez retrouvée, elle soit en anglais. Et curieusement, c'est pas spécialement un anglais compliqué souvent, moi je trouve. C'est un anglais technique dans son domaine, mais avec des formulations plutôt simples. On est plus dans l'anglais international que dans l'anglais littéraire. Alors, si l'anglais c'est galère pour vous, bah, un traducteur automatique ça rend bon service dans ces cas-là. Moi je vous encourage à pas vous décourager, à pas vous arrêter là et à tenter malgré tout de comprendre en traduisant sauvagement avec un traducteur automatique. Ça permet quand même d'approcher certains trucs. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est que selon le domaine, selon votre maîtrise du sujet, eh ben, il y a des chances que vous ne compreniez pas grand-chose au détail de l'étude. Des fois, ça nécessite de passer quelques heures à faire des recherches pour commencer à comprendre des trucs. Mais vous découragez pas d'avance, il y a plein de sujets sur lesquels c'est carrément possible de comprendre pas mal de choses. Certains types d'essais cliniques en psycho ou en recherche médicale, certaines recherches en socio ou en histoire, je les trouve étonnamment accessibles. J'ai été surpris en tout cas de... Ah putain, en fait, ça se lit, quoi. Alors évidemment, si ce qui vous taraude, c'est dans un domaine très pointu de physique théorique, ou que ça fait appel à des maths compliquées, et que vous êtes largué là-dessus, ou que ça parle d'une sombre histoire de microbiologie, je dis pas que c'est gagné. Mais un des pires trucs dans l'accessibilité à la science, c'est ce sentiment, entretenu parfois de part et d'autre, que c'est uniquement une affaire d'experts, et que c'est pas pour moi, a priori. Alors une autre astuce, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que parfois... Sur les sites de pré-publication dont je vous avais parlé de Archive ou Bioarchive, donc c'est des sites où j'en ai parlé, quoi. Des fois, la revue par les pairs se fait directement en commentaire. Donc vous avez la publication et dessous des commentaires de d'autres scientifiques du domaine, ou qu'on peut supposer du domaine, si, voilà, qui critiquent, qui pointent des limites méthodologiques, qui critiquent la portée de l'étude, ou au contraire, qui disent en quoi est-ce qu'elle est de qualité. Et ça, des fois, rien que de lire ça, ça permet de comprendre, en fait, de recontextualiser une étude et d'en limiter la portée, ou enfin, d'en comprendre la portée. Si vous avez envie d'aller plus loin, de mieux comprendre ce que j'ai raconté, eh ben, il y a, moi, je vous conseille une vidéo qui utilise des exemples, des images, c'est hyper bien fait. C'est sur la chaîne Science Étonnante. C'est David Loipre qui tient cette chaîne, et la vidéo s'appelle Comment fact-checker une étude scientifique. Pareil, je la mettrai en description du podcast. Et avant de conclure, un peu d'auto-analyse de nous autres qui faisons des émissions de zététique sur Radio Sans Nous. Ça fait quelques émissions qu'on parle d'études scientifiques ou de publications autour de la science qui sont un peu nazes, voire franchement désastreuses. Or, ça donne une vision trompeuse de la science. On ne l'apprend en ce moment que par le bout des trucs douteux. Et je voudrais pas que ce qu'on retienne, c'est la science, c'est pas fiable. Ce serait assez contre-productif. Mais bon, dans le contexte, c'est ce qui nous a semblé pertinent à traiter aussi pour élucider le rapport aux sciences de chacun chacune, pour démystifier la science. On pourra causer peut-être les prochaines fois d'études plus solides. Il y en a des très intéressantes sur les effets de l'acupuncture, par exemple. C'est plutôt intéressant sur la méthodologie. Ou on pourrait aller causer d'études en psycho de l'économie qui montrent comment on galère trop à manipuler de façon raisonnable certaines données, certaines décisions économiques, et que c'est assez généralisé. Voilà, on pourra réfléchir à ça peut-être la prochaine fois. Et ben, c'est fini pour l'émission zététique d'aujourd'hui. J'espère que ça a été. Et puis, je vais laisser JB conclure.
Eh ben, c'est pareil, je veux aussi dire que c'est fini pour Radio Sans Nous ce midi. Comme tous les soirs, on peut se rejoindre à 8h pour les petites histoires. Et puis demain midi pour les émissions habituelles du midi à 12h30. Et demain soir, on va avoir à 18h30 l'émission en arabe. Et je sais plus s'il y a du jeu ou pas demain soir. Souvent, il y a du jeu. En tout cas, il n'y a pas scène ouverte, je crois, cette semaine. Je crois que c'est la semaine d'après. Et puis des histoires tous les soirs et vendredi soir pour l'apéro chant. Voilà, bonne écoute, bon après-midi.
Radio sans nous, COVID-19.
Je m'attendais à cette petite difficulté. Vous semblez caresser l'illusion que je vais obéir. Quelle est la formule sans opposer de résistance?
Pour le 1er mai, Radio Sans Nous fait une journée entière de radio, une journée de rediffusion et de partage autour des luttes, autour des mouvements. Parce que le 1er mai, pour nous, c'est bien une journée où on construit nos luttes, où on les partage et où on s'inscrit dans une histoire du politique et une histoire des luttes ensemble. Voilà, réécoutez-nous le 1er mai.
Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
C'est Radio Sans Nous.
Non, prenez des notes, hein, parce que je vais pas répéter. Hein.
Un témoignage à faire passer, une info à diffuser ou du temps pour filer un coup de main, bienvenue. Envoie-nous un mail à radio.sansnous@cma-pdll.org.
Comment ? J'ai pas compris. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute.
Tu veux participer à une radio d'éduc pop ? Bah rejoins-nous.
Ah ça c'est vrai, ça vous intéresserait pas de participer ?
Ah mais c'est pas possible ça, j'ai pas envie de participer. À rien. C'est pas mon genre de participer. Jamais je participerai.
J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous enfile avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Passez votre chemin, bâtard, et filez vite au wagon-bar. Je fumerai ma cigarette tranquillement dans les toilettes. Partout c'est la prohibition, alcool à la télévision, papier clope, manque de fric, et vieillir dans les lieux publics. Partout c'est la prohibition, parole, cri, fornication. Foutre interdit à 60 ans, ou scandale et ricanement. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Les malades sont prohibés, on les jette dans les fossés, à moins qu'ils n'apportent du blé, de la thune aux plus fortunés. Les vieux sont jetés aux orties, à l'asile, au château d'oubli. Voici ce qui m'attend demain, si jamais je perds mon chemin. J'ai d'autres projets, vous voyez. Je vais baiser, boire et fumer. Je vais m'inventer d'autres cieux.